ça leur ressemble. Terroriser la bourgeoisie, la faire vaciller, et ensuite, s'emparer d'Elvire Commande.
Radio quoi ?
Et qu'il ne parle à personne. Le secret absolu !
Parlons philo. Parlons philo. Bonjour, bienvenue dans Parlons Philo, une émission de philosophie diffusée sur Radio Campus Orléans 88.3, animée et présentée par Laurence Lacroix. Bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis déjà ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Parlons Philo, où j'ai la chance, l'honneur extrême de recevoir Kaëla Gillespie pour la sortie de son ouvrage « Manufacture de l'homme apolitique ». Donc, Kaëla Gillespie, vous êtes une philosophe très investie dans les questions de philosophie morale et politique.
Oui. Ça fait une vingtaine d'années que je réfléchis au système que j'appelle ultralibéral, oui.
Mm-hmm. D'où maintenant la sortie de cet ouvrage sur la manufacture de l'homme apolitique, qui est un titre qui, à première vue, peut effectivement surprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, manufacture de l'homme apolitique ? Et sommes-nous aujourd'hui devenus des hommes apolitiques ? Qu'est-ce que c'est que cet apolitisme dont vous qualifiez
l'humain? Oui, j'entends. L'apolitisme, à l'heure actuelle, il est partout. C'est un mode de vie auquel on nous convie depuis maintenant quelques décennies. Et c'est un mode de vie qui commence à devenir habituel. Ce mode de vie apolitique... il est présent par exemple dans notre abstention, il est présent par exemple dans le fait qu'on manifeste de moins en moins, il est présent par exemple dans le fait qu'on ne cherche plus à se réaliser dans la cité en tant qu'électeur ou éligible, en tant qu'acteur politique, mais essentiellement en tant qu'acteur économique. Plus profondément encore, et c'est ça qui est un peu plus inquiétant, il y a un apolitisme jusque dans nos luttes, et l'on constate par exemple que les luttes qui sont pourtant authentiquement politiques, comme le féminisme ou comme l'écologie, se revendiquent d'un apolitisme, ni de droite ni de gauche, aucune couleur politique. Moi je suis libre, je ne suis pas récupérée. Ce qui signifie qu'il y a une défiance telle par rapport aux politiques et par rapport à l'idée de représentation que, jusque et y compris dans nos luttes, nous revendiquons notre apolitisme comme marque de notre liberté. Alors le titre « Manufacture de l'homme apolitique », il a pour sens de nous alerter sur le fait que notre apolitisme n'est pas la marque de notre liberté. Nous ne sommes pas libres d'être apolitiques et que nous ne gagnons pas en liberté en étant apolitiques. L'idée, c'est qu'une grande entreprise de destruction de la citoyenneté est en cours depuis 50 ans et que nous sommes le produit final, nous autres hommes et nous autres peuples atomisés, nous sommes le produit final de cette grande entreprise de dépolitisation. Donc manufacture, comme dans une usine, on a véritablement affaire à une production des hommes apolitiques que nous sommes et qui nous définissons donc maintenant comme les membres d'une société civile débarrassée de l'État.
Alors dans votre ouvrage, c'est peut-être le sens que vous donnez à ce terme « habitus ». L'apolitisme, en oui. fait, ça s'est constitué en nous sous la forme de cet habitus.
Oui, le concept de Bourdieu, celui de l'habitus, peut être intéressant pour comprendre qu'on a affaire véritablement à la constitution d'une seconde nature. C'est plus que l'habitude de ne pas agir politiquement, c'est plus que l'habitude du retrait, c'est une posture de passivité que nous avons appris à adopter. c'est une passivation volontaire. Mmh. Et cette attitude est en passe de devenir un genre de vie.
Et qu'est-ce qui a pu constituer cet habitus ?
Alors, c'est tout l'objet du livre, en réalité, ah ouais. que de décrire tous les mécanismes de la fabrication de l'apolitisme dont nous sommes, donc le résultat, le produit fini. Tous ces mécanismes qui sont décortiqués dans le livre un par un tendent à produire ce que nous sommes, c'est-à-dire non pas des êtres libres de nous engager dans la cité, mais précisément des êtres qui nous définissons comme libres de ne pas être citoyens.
Mmh. Et c'est là où interviennent les deux concepts clés que vous utilisez au tout début de votre ouvrage, à savoir celui de monde nouveau et d'homme nouveau. Qu'est-ce que c'est qu'un monde nouveau ? En quoi diffère-t-il de l'ancien ? Et en quoi sommes-nous des hommes nouveaux ? En quoi ne suis-je pas semblable à mon grand-père, ma grand-mère ou ceux qui m'ont précédé ?
Oui, j'entends. La thèse de mon livre, c'est que le néolibéralisme, que moi j'appelle ultralibéralisme, on y reviendra, nous convie à une véritable conversion, au sens religieux du terme. Cette conversion, elle est possible par un discours de persuasion qui gravite autour de deux images clés, que sont le nouvel homme et le nouveau monde. Et donc ce nouvel homme, si on cherche à le cerner, c'est un homme jeune qui se définit comme désaffilié, qui se définit comme ne faisant pas partie du vieux système des partis, comme n'étant d'aucun syndicat, comme étant autonome. C'est un homme qui est défini par le régime actuel comme étant le vrai créateur de richesses. C'est un homme à qui la cité doit tout et qui ne doit rien à la cité. C'est un homme qui est défini comme propriétaire de soi et de ses biens et qui va opposer cette liberté à un abus de pouvoir possible, une ingérence possible de l'État. Donc cet homme nouveau qui est jeune, de la jeunesse essentielle du nouveau monde, il est ce à quoi nous sommes conviés à nous identifier. Par ailleurs, nous sommes redéfinis depuis maintenant plusieurs décennies comme faisant partie d'un nouveau monde en cours d'émergence. On entend, beaucoup plus proche de nous dans l'histoire, par exemple en 2017, les nouveaux parlementaires de M. Emmanuel Macron parler d'émergence du nouveau monde et de fin du monde ancien. Qu'est-ce donc que ce nouveau monde ? C'est une fiction idéologique qui repose sur la structure économique néolibérale. Cette fiction du nouveau monde équivaut à ce qu'on appelle aussi le monde de l'entreprise. Donc, le monde de l'entreprise, c'est une fiction idéologique qui se superpose au réseau réel des entreprises. Et en fait, les hommes sont censés vivre leur vraie vie dans ce monde-là, plutôt que dans le monde politique. Et donc le monde vrai, le monde de l'entreprise, le nouveau monde, est ce qui fait passer le monde politique au passé. C'est ce qui rend ancien le monde politique. Donc je parlais de conversion tout à l'heure au sens religieux du terme. On a vraiment quelque chose qui est analogue à ce qui se passe au moment de l'émergence du christianisme, et qu'on trouve sous la plume de saint Paul dans l'épître aux Éphésiens, lorsqu'il en appelle donc à se revêtir de l'homme nouveau. Il s'agit de faire mourir l'homme ancien. Et à l'heure actuelle, quelque chose d'analogue est en train de se passer. Il faut que nous devenions cet homme nouveau et que nous acceptions de mettre à mort l'homme ancien que nous fûmes, c'est-à-dire l'homme citoyen.
D'accord. Et ce monde et cet homme nouveau ne peut vivre que dans un monde nouveau, du coup.
Cet homme nouveau ne peut vivre que dans un monde nouveau. C'est un mode de vie qui est défini comme excitant, accéléré, et qui se définit par opposition au monde de la lenteur. Le monde de l'homme ancien, c'est le monde du fonctionnaire. C'est le monde sans vitalité. C'est le vieux monde du travail par opposition au monde nouveau de l'entreprise. Donc cet homme nouveau ne peut se réaliser que dans le nouveau monde. C'est ça l'idée, c'est que là où nous autres, en tant que citoyens, nous nous imaginions nous réaliser dans la vie politique, nous nous imaginions donc que notre vie la plus intense, la plus réelle, consistait en ce que nous puissions agir politiquement et nous réaliser politiquement, nous réaliser dans la cité. À l'heure actuelle, se réaliser, ça n'est pas se réaliser dans la vie de l'homme illustre, politiquement parlant. Se réaliser, c'est être un winner et non pas un loser dans le grand jeu des échanges économiques qui forment la trame de nos existences.
À partir de là, on peut dire que nous ne vivons plus dans le monde aristotélicien. L'homme n'est plus un zoon politikon.
Oui, on a perdu la définition essentielle qui était au cœur de la réflexion d'Aristote, la définition essentielle de l'homme comme un être profondément politique, c'est-à-dire un homme dont la nature consiste à se réaliser, se parachever, par et dans la vie dans la cité. Là où d'autres modes de vie sont possibles, mais ce sont des modes de vie qui sont inaboutis, qui sont atrophiés par rapport à nos possibilités. On peut vivre, on peut se définir comme vivant dans une cellule familiale sous l'égide d'un chef de famille, on peut vivre dans un village sous l'égide d'un chef de village, mais là on n'a pas affaire à un mode de vie politique. Le mode de vie politique se réalise lorsque on commence à parler des lois qui sont bonnes pour la cité et lorsqu'on commence à avoir une vie qu'Aristote appelle autotélique, c'est-à-dire capable de se donner à nous-mêmes des finalités autres que la simple survie. Il faut vivre bien. Vivre politiquement, c'est vivre bien, c'est pas simplement vivre.
Alors j'ai envie de dire aujourd'hui, vivre bien, effectivement, c'est pas vivre politiquement, mais par contre, vivre bien, ça a une réelle signification, je pense, en termes de pouvoir d'achat. C'est-à-dire, vivre bien, est-ce que c'est pas être capable de consommer, effectivement, d'avoir un bel appartement, une belle femme ou un bel homme? Parce que c'est vrai que quand on parle de l'homme apolitique, ne nous y trompons pas. C'est l'homme en termes génériques, hein, que ce soit qu'on soit homme ou femme, on est tous embringués dans cette même... une constitution de ce nouvel homme, comme vous le dites, ou encore de cette nouvelle manière de vivre notre individualité.
Oui, c'est un nouveau type d'homme, indépendamment évidemment du genre. Et en effet, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que la liberté à l'heure actuelle, elle est redéfinie à partir du pouvoir d'achat qui se déploie sur fond de l'individu. Et donc ce pouvoir d'achat, en réalité, a une définition dont l'extension est de plus en plus large. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de pouvoir acheter de quoi mettre dans le caddie et consommer pour la semaine l'alimentation. Il ne s'agit pas d'acheter simplement une maison. L'idée qui est déployée par le nouveau régime ultralibéral actuel, c'est que l'homme a autant de liberté qu'il peut en consommer. Et que ce que nous nommions des droits réels construits par la cité est en train d'être redéfini comme objet de consommation, comme simple consommable. Autant dire que l'homme nouveau se déploie comme tout puissant, plénipotentiaire, dès lors qu'il a de quoi consommer son rapport à la santé, de quoi consommer son rapport à la justice, de quoi consommer son rapport à l'éducation. Cette propension à acheter le droit, c'est le fruit d'une grande, d'une profonde métamorphose de l'idée de droit. L'idée de droit n'est plus considérée comme le droit objectif construit par la cité, mais comme l'extension de ce que nous sommes par nature. Nous sommes par nature, d'après l'ultralibéralisme, des êtres porteurs, dès la naissance, du droit, de consommer le droit. Et partant, donc, indépendamment du fait que le droit soit juridiquement et politiquement constitué, le dogme ultralibéral nous définit comme libre de déployer notre pouvoir d'achat en toute chose, et jusque y compris dans la consommation du droit.
Mmh. Alors c'est intéressant parce qu'on est là au cœur de ce que vous nommez donc ce nouveau monde, ce nouveau régime qu'est l'ultralibéralisme. Et j'avoue que j'ai été extrêmement sensible au fait que dans votre livre, vous travaillez ce que moi je nommerais la déconstruction d'un imaginaire autour des images justement qui nous ont été transmises, qui sont véhiculés et qui nous permettent de penser ce nouveau rapport à l'État. Est-ce qu'on pourrait dire un rapport un peu consumériste ou un État qui doit intervenir sans trop intervenir quelle est en fait la manière par laquelle nous pensons l'État? Quelles sont les images par lesquelles nous avons été peut-être élaborés dans cette logique du nouvel homme? Dans votre livre, vous écrivez que ce nouvel homme va avec la production, je vous cite, d'une plastique dogmatique, un ensemble cohérent d'images fondatrices, et vous allez jusqu'à parler d'un art fantasmatique. Voilà, c'est intéressant. Quel est cet art fantasmatique qui nous habiterait tous, si je vous ai bien compris, et qui permet l'élaboration, sans qu'on s'en rende nécessairement compte, de ce nouveau monde et de ce nouvel homme que nous sommes tous?
Oui, l'idée d'art fantasmatique, elle est présente, là encore, dans le christianisme. C'est la fabrication d'un ensemble d'images qui nous rendent désirables à nous-mêmes. Par exemple, l'idée d'individu va prendre comme support imagé le self-made man, l'homme qui se fabrique lui-même, qui est à lui-même son propre créateur. On a un ensemble d'images qui forment une idéologie, puisque l'idéologie n'est pas un ensemble d'idées, mais un ensemble d'images. Et l'idéologie ultralibérale peut être, à mon avis, conçue comme l'ensemble des productions fictives, l'ensemble des productions imagées, qui sert à étayer et à légitimer l'économie néolibérale. Donc si on pose, on repose un peu plus clairement les définitions des termes, je rappelle que le néolibéralisme, c'est donc le nom d'un régime économique, essentiellement, qui repose sur l'idée qu'il faut intensifier la concurrence et par conséquent déréguler les échanges de manière à ce que l'État n'ait pas le monopole. L'État, au contraire, doit refluer entre certaines limites. L'État doit décroître dans ses prétentions et avoir moins de prérogatives de manière à laisser le marché libre. Et l'idée de ce néolibéralisme comme régime économique, c'est que de la liberté des échanges va émerger un ordre spontané, l'ordre spontané du marché. Maintenant, pour étayer cela et puis pour légitimer cela, cette infrastructure économique, le néolibéralisme secrète, le néolibéralisme va créer, secréter un ensemble de fictions idéologiques. Et cet ensemble de fictions idéologiques prendre corps sous la forme de ce qu'on appelle une superstructure, c'est-à-dire c'est l'ensemble des fictions idéologiques qui est au-dessus de l'infrastructure économique et qui sert à légitimer l'infrastructure économique. Donc ce que j'appelle ultralibéralisme, c'est la totalité, néolibéralisme économique, plus l'ensemble des productions fantasmatiques, c'est-à-dire tout cet art fantasmatique dont vous avez parlé, qui nous permet de nous identifier au nouvel homme dans le nouveau monde, puisque c'est là que dorénavant nous devrons vivre.
Alors, si on analyse certaines de ces images, vous vous penchez tout d'abord sur la reprise par Hayek de la fable des abeilles de Mandeville. Donc, je rappelle, Hayek, c'est un philosophe autrichien du XXe siècle, hein, puisqu'il est décédé en 1992. Est-ce que vous pouvez nous décrire comme ça, un tant soit peu, ce qui relève de cette image de la ruche et en quoi, en fait, ça nous formate dans notre manière de penser notre rapport à l'État ou à la société?
D'accord. Donc, toutes les images qui contribuent à forger l'homme nouveau proviennent de textes anciens. Plus précisément, l'ultralibéralisme est allé chercher au fond du libéralisme classique, notamment anglais, un certain nombre d'images. D'abord pour se draper d'une historicité que l'ultralibéralisme n'a pas, et pour se légitimer, et pour prétendre être justement un néolibéralisme, c'est-à-dire en fait un prolongement parfaitement légitime de la grande... du grand projet d'émancipation de l'homme qui était porté par le libéralisme classique. En effet, dans le libéralisme classique, chez des gens comme Locke, on trouve l'idée que l'individu doit être construit dans sa liberté face à l'État. Et donc, l'ultralibéralisme va puiser dans l'histoire de la philosophie des images, uniquement des images, peu importe la philosophie en question. Elle retient des images, elle retient des métaphores. Et elle fait fruit, en fait, de la valeur de persuasion, de la valeur prégnante de ces métaphores. Indépendamment, encore une fois, de la finesse de l'argumentation, de la finesse de l'idée. Cela est totalement abandonné. On retient l'image. Et donc, dans La fable des abeilles de Mandeville, qui est paru en 1705, Mandeville fait une critique, c'est une pensée critique, de l'idée selon laquelle les hommes qui sont intéressés à leur propre existence finissent par fabriquer un ordre social qui est naturel, spontané. Autrement dit, il n'y a pas besoin d'intervention de lois extérieures pour parvenir à cet ordre qui est l'ordre naturel, qui est toujours déjà là, comme pour les ruches des abeilles. Mandeville est critique, il parle du fait que on a affaire à des filous, des fripons, qui œuvrent par intérêt. Ce que l'ultralibéralisme des années 70 en retient, nommément ce que Hayek en retient, c'est simplement l'image de la ruche. Donc l'image de la ruche, c'est l'image d'un ordre spontané, quasi animal, c'est-à-dire naturel. Ce que l'ultralibéralisme cherche à véhiculer, c'est l'idée, par l'entremise de cette métaphore, c'est l'idée que, livrés à nous-mêmes, laissés à nous-mêmes, nous trouvons, par le biais des échanges, nous trouvons à fabriquer un ordre et qu'il y a des règles et du droit qui procèdent de cette évolution vers l'ordre. C'est une évolution quasi biologique. Et le fond de la pensée de Hayek est imprégné de darwinisme, d'évolutionnisme darwinien. Donc, par évolution, nous produisons des règles et il n'y a pas besoin d'une intervention étatique ingérante.
Mm-hmm. Donc, pas besoin de l'État. J'irai peut-être plus loin. Est-ce que ça veut dire très clairement aussi la possibilité de se passer de l'État et que l'État, en tout cas, ne doit absolument pas intervenir dans le jeu social? Est-ce que c'est ce qui se développe, ou en tout cas ce que nous fait penser, ou nous amène à penser, une autre image chère à Hayek, qui est celle du jeu, J-E-U, c'est-à-dire en fait cette société qui s'autorégule serait à concevoir sur le mode du jeu, où la justice, puisque voilà, c'est une société juste qui se met en place, la justice, que serait-elle? Ça serait la capacité pour chacun de pouvoir utiliser et extérioriser l'ensemble de son potentiel et donc de pouvoir acquérir dans le corps social ce que son être ou sa nature le rend apte à pouvoir posséder ou ce à quoi il peut accéder. Est-ce qu'on pourrait travailler la chose ainsi, dire les choses ainsi?
Alors, une fois encore, il y a des images autour desquelles se tisse avec patience et lenteur l'idéologie. L'une de ces images centrales, en effet, est celle du jeu de société que l'on trouve donc dans le tome 2 de « Droit, législation et liberté » de Hayek, tome 2 qui s'intitule « Le mirage de la justice sociale ». Alors, ce qui est déployé par Hayek, c'est l'idée que quand on joue à un jeu de société, un Monopoly au hasard, on n'a pas besoin de l'intervention de règles extérieures au jeu pour bien jouer le jeu. Il faut et il suffit que l'on veuille jouer. Et dès lors, on est bien obligé de jouer selon les règles du jeu. Et si on ne joue pas selon les règles du jeu, si on triche par exemple, eh bien on est exclu du jeu. Donc la métaphore du jeu de société consiste à dire que les échanges produisent en eux-mêmes un ordre et que les hommes se déploient leur liberté d'individu dans le cadre de cette société, ce sont des joueurs. Ce sont des joueurs qui doivent jouer selon les règles du jeu, c'est-à-dire qui doivent échanger, qui doivent chercher à réussir, ou qui, au contraire, sont responsables de leur chute sociale. Alors, ce qui est extrêmement inquiétant, je dirais, dans cette représentation de la vie de la cité comme un simple jeu de société, c'est-à-dire la dépolitisation intégrale de la cité, hein, représentée sous la forme d'un jeu de société, c'est que Hayek définit les joueurs comme étant à égalité. Les joueurs qui s'investissent dans le jeu de société s'y déploient en fonction de ce qu'il nomme des talents naturels. Alors, il dit qu'il y a des talents, il y a des connaissances qui sont à la base de notre engagement dans le jeu de société. Il y a une toute petite part de chance. Mais enfin, voilà, nous faisons nous-mêmes. Entendons par là qu'à partir du moment où il n'y a pas de coercition, c'est-à-dire que je ne suis pas obligée de réaliser les fins qui sont déployées par la volonté d'un autre, en réalité, il n'y a pas de privation de liberté. Ce qui veut dire très concrètement, pour Hayek, que la pauvreté n'est pas une privation de liberté. Ce qui veut dire très concrètement, encore une fois, que les joueurs sont à égalité, en tant que, quand bien même l'un des deux aurait un héritage sonnant et trébuchant important, et l'autre n'aurait rien, qui proviendraient d'un certain nombre de générations de travailleurs pauvres, par exemple, ces deux hommes-là sont pensés comme étant à égalité. Ils sont là pour réaliser une liberté qui se définit comme capacité de saisir les opportunités, et non pas, comme dans la définition politique du corps politique, égalité des chances, hein, qui est construite juridiquement et politiquement. Là, on n'a pas du tout l'idée qu'il faille maximiser l'égalité des chances. Il faut maximiser chez tous la capacité à se saisir des opportunités. Donc la liberté, elle est définie comme simple absence de coercition. Donc si on va jusqu'au bout de cette définition, on est libre d'être pauvre. Hein.
Et donc, si je vous suis bien, ces images construisent en fait nos imaginaires, que ce soit nos imaginaires individuels, que ce soit nos imaginaires collectifs, ce qui veut dire que nous abordons en fait notre vie sous ces modes-là, même si nous nous en rendons pas nécessairement compte. Et pour vous, c'est ça la constitution à l'heure actuelle de ce monde ultra-libéral dans lequel nous évoluons. C'est bien la définition que vous en donnez.
Oui, si on reprend ce qui se passe dans le grand jeu de société, ça veut dire que l'homme que je suis et qui chute, l'homme que je suis et qui ne réussit pas socialement, en fait, il est amené à croire qu'il est le créateur de sa chute. Il est le seul point d'ancrage de la responsabilité de la chute. Ce qui veut dire que celui qui réussit, le winner, il est celui qui se donne à lui-même le mérite de sa réussite. Et celui qui chute dans le grand jeu de société, qui perd, est par nature un perdant. Ce qui veut dire que on n'a pas du tout la possibilité de se constituer collectivement comme étant des travailleurs, par exemple, qui devrions être liés par une structure syndicale, une structure politique de défense, dès lors que nos conditions de travail seraient détruites ou amoindries dans leur qualité. Là, l'homme est tout seul. Il est tout seul. Il est atomisé, il est esselé, et il est amené à croire qu'il est responsable intégralement de ce qui lui arrive. Ce qui veut dire que si je suis pauvre, c'est que je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour être riche. Je n'ai pas capitalisé à temps, je n'ai pas construit un portefeuille de compétences, je n'ai pas investi dans la pierre quand il le fallait, je n'ai pas capitalisé pour une retraite privée quand il fallait. C'est de ma faute. Ce qui veut dire que les hommes se retrouvent dans cette atomisation, ils se retrouvent porteurs de ce que j'appelle la haine de soi. Et cette haine de soi, c'est quelque chose de très très central dans le politique. Le fait d'apprendre à se haïr soi-même, c'est la condition de possibilité du fait que je me définisse comme ne valant rien politiquement. Je suis remplaçable. Voilà. C'est la base de ce que Hannah Arendt décrivait dans Le système totalitaire comme étant l'homme de masse. Donc.
Alors. Cette possibilité de développer en soi la haine de soi, le fait d'être aujourd'hui ou de faire partie de cet homme de masse ou homme de la masse viendrait d'une désolidarisation entre l'individu et l'État et du fait que non seulement nous devenons de plus en plus méfiants vis-à-vis de l'État, mais même nous supposons que l'État, si je suis Hayek par exemple, hein, dans ces images de la ruche et du jeu de société, que l'État ne doit en aucun cas intervenir pour que les choses fonctionnent. Donc,
alors, c'est pas tout à fait cela que j'essaye de démontrer dans mon livre. C'est que pour Hayek, il y a des règles étatiques et il y a possibilité de corriger à la marge les règles qui seraient nées de cet évolutionnisme naturel qui produit des règles coutumières. Mais ce qu'il dit, c'est que tout droit n'est pas d'État, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de droit d'État. En revanche, et c'est ça qui est très très important dans l'ultralibéralisme, c'est central dans mon livre, toute production législative doit être mise au service de la permanence de l'ordre spontané, de marché. C'est-à-dire que l'État sert, l'État doit servir. La production législative, la production des lois n'a de sens qu'à partir du moment où elle rend possible la libération des forces vives, qu'à partir du moment où elle rend possible l'émergence de l'ordre spontané du marché. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de droit d'État. Il y en a chez Hayek, comme il y en a chez Popper, comme il y en a évidemment chez beaucoup d'ultralibéraux. Il s'agit de dire qu'il y a instrumentalisation, c'est-à-dire mise au service, mise au pas de la production législative qui a pour seul sens de réunir l'ensemble des conditions de possibilité pour que le marché puisse aller vers l'ordre qui est le sien.
Alors, du coup, si l'État est mis au service du marché, on peut dire que ce qui prime en fait aujourd'hui dans l'ultralibéralisme, c'est le monde de l'entreprise. Et dans ce rapport au droit qui, du coup, n'est pas inexistant, qui est là, mais qui est mis au service de, on aurait donc affaire à une subversion de la pyramide des normes. C'est cela. C'est un concept qui n'est pas simple à saisir, ça. Est-ce que, Kaëla Gillespie, vous pourriez peut-être déjà nous expliquer ce qu'est la pyramide des normes telle que l'a formalisée Kelsen en 1934, à quoi elle sert et qu'est-ce qu'elle fonde, cette pyramide des normes qui va se voir subvertie dans l'ultralibéralisme ?
Oui, merci de poser cette question. C'est en effet un point assez technique. Et il nous faut en effet donner une définition de ce qu'on appelle la pyramide des normes, qui est à l'heure actuelle en péril. La pyramide des normes, c'est donc une représentation mentale de l'ensemble des règles qui structurent un état de droit. Et donc c'est une représentation qui est née, vous l'avez dit, dans les années 30 sous la plume de Kelsen. Donc c'est quelque chose qui est très très récent. C'est une modélisation de l'état de droit qui est très récente. Alors concrètement, ça veut dire que si on se représente mentalement une pyramide, il y a un sommet. Ce sommet, ce serait donc la norme sommitale qu'est la Constitution. Et puis sous ce premier grade, il y a un deuxième grade plus large, et on va ainsi de grade en grade, de degré en degré, on descend vers la base élargie du système. Quand on descend donc sous la Constitution, on trouve les lois et puis les traités, les décrets, les circulaires, jusqu'à la base élargie du système, qui est structuré par quelque chose qui est très très utile pour nous autres citoyens, qui s'appelle le principe de faveur, et qui garantit aux citoyens que c'est la norme la plus favorable qui va être appliquée. Donc ça, c'est une percée de la pensée politique, et c'est une réalisation qui est très intéressante pour nous autres, parce que cette modélisation de l'état de droit, elle permet de définir l'état comme étant surveillé en permanence dans tous ses agissements, dans tous ses actes, par le droit. Et à l'inverse, enfin, par un échange qui forme un cercle vertueux, l'État permet au droit d'être puissamment mis en vigueur parce que l'État prête main forte au droit. Donc on a un échange entre l'État qui prête main forte au droit et le droit qui surveille les agissements de l'État. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'État de droit dans sa version la plus contemporaine. Or, cet état de droit, structurée par la pyramide des normes, est bousculée. C'est le moins qu'on puisse dire. Dans mon livre, je parle de subversion, c'est-à-dire que l'ultralibéralisme investit la pyramide et entend la retourner, l'inverser complètement. Alors, on voit cet appel à la subversion de la pyramide des normes, aussi appelée pyramide des garanties, on la voit expressément demander dans un texte du MEDEF, le syndicat patronal, le MEDEF, en 1999, où le MEDEF, dans un texte appelé « Refondation sociale », appelle, je cite, à renverser la pyramide des garanties, je cite toujours, en faisant de l'entreprise, voire de l'établissement, la base élargie du système. Donc ça veut dire que il est utile au monde de l'entreprise de déployer une production juridique de terrain directement dans les entreprises. Cela est beaucoup plus utile pour l'ultralibéralisme que de se voir imposer de l'extérieur des lois. Et partant, en fait, l'idée de la refondation sociale consisterait en fait à mettre la loi elle-même sous l'égide des productions directement issues de l'entreprise. Donc très concrètement, si on veut un exemple, ça veut dire que la loi, elle peut bien définir le temps de travail comme étant 35 heures. À partir du moment où il y a des accords d'entreprise qui disent le contraire, les accords d'entreprise peuvent avoir prévalence sur la loi. Et on a vu cette inversion de la pyramide des normes se mettre en place au moment de la loi travail. La première loi travail, la loi dite El Khomri en 2016, qui a occasionné des pertes sèches et très féroces de droits concrets. Par exemple, le plafonnement des indemnités prud'homales ou la perte de certains critères de pénibilité au travail. Donc très concrètement, on y a perdu des plumes. Mais plus profondément, et c'était beaucoup plus grave en réalité, et les syndicats à ce moment-là ont alerté, mais c'est passé complètement inaperçu en réalité, on a assisté à une première brèche dans l'état de droit. Et M. Emmanuel Macron, à l'époque, disait « il faut que ça se généralise ». C'est-à-dire qu'il faut que l'idée de la prévalence de la production juridique infra-législative sur les lois, il faut que ça se généralise à tous les champs de production, à tous les champs d'activité. Et c'est ce qu'il appelle la refondation. Et ce grand projet de refondation, donc le mot a été au cœur hein, de la campagne de 2022, on le retrouve encore là ces derniers jours, lorsque, après la dissolution de l'Assemblée nationale, il a appelé à la refondation de la vie politique. Ce qu'on appelle la refondation de la vie politique dans le vocabulaire ultralibéral, c'est ce que moi j'appelle la subversion. Et le problème, c'est que ce qui était un gain historique extraordinaire pour nous autres hommes, au sens générique du terme, et peuple, est en train de nous échapper. C'est-à-dire, l'état de droit, c'est quelque chose d'extraordinairement précieux, qui est le fruit de siècles de travail politique. La subversion de l'état de droit, qui n'équivaut pas à sa négation, mais à son instrumentalisation, est quelque chose qui est extrêmement pervers.
Alors, en même temps, j'ai envie de dire, ces attaques qui sont faites à l'état de droit, mais qui sont faites aussi à nos droits politiques, je pense par exemple aux 35 heures dont vous venez de parler, ou à tout ce qui peut toucher aussi à nos droits au chômage, etc., etc. Pour ne pas parler de l'atteinte qui a été faite au droit à la retraite, en fait, tout cela a quand même donné lieu à des mouvements populaires extrêmement importants. On a manifesté, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui a été extrêmement visible. Or, pourtant, dans votre livre, vous parlez de la, je vous cite, la déréalisation des résistances. ce qui pourrait ne pas aller de soi. En quoi nos manifestations, en quoi nos revendications font-elles partie de cette déréalisation des résistances par le nouveau régime, par l'ultralibéralisme ?
Alors l'idée que je déploie dans mon livre, c'est que l'ultralibéralisme invisibilise les résistances et déréalise les résistances de plusieurs manières. Si l'on prend un exemple de déréalisation parmi tant d'autres, à l'heure actuelle, par exemple, on déréalise, on ne tient pour rien le désarroi, la désespérance des personnes qui tiennent à bout de bras le service public, tant bien que mal, par exemple dans les hôpitaux. On parle de malaise des infirmières. On parle de d'individus qui ne supportent pas la pression, d'individus qui seraient par nature plus fragiles que d'autres face aux restructurations nécessaires. Cette manière de dépolitiser le désarroi qui est causé politiquement par des formes de néo-management qui visent à dégraisser le mammouth ici, à contenir les dépenses là, à restructurer à tour de bras. Face à cette violence néo-managériale, on fait comme si il n'y avait que des individus en incapacité de subir la pression nécessaire de la vie rapide, la pression nécessaire de la vie vraie. Et donc on fait voler en éclats, par exemple, un mouvement social qui immobiliserait les urgences de l'hôpital. On le fait voler en éclats. On parle d'individus récalcitrants, d'individus inaptes, d'individus qui ne sont pas adaptés au sens quasi biologique du terme à la vie rapide qui est la nôtre. Donc il y a un phénomène de déréalisation. Par exemple, quand il y a des séries de suicides dans les hôpitaux, on monte un comité d'enquête, mais ce comité d'enquête va conclure que il y a un ensemble d'individus qui ne supportent pas la pression interne des restructurations nécessaires. Donc cette déréalisation équivaut en fait à une négation de tout mouvement politique de résistance. On a fait pareil avec les professeurs. Les professeurs sont décrits éternellement comme des êtres du malaise professoral, des êtres qui sont inaptes, des êtres de la vie lente, des fonctionnaires, des planqués, des êtres paresseux, inaptes. On a fait pareil avec l'hôpital, on a fait pareil avec France Télécom. Tous les grands corps d'État qui sont au cœur de notre liberté réelle, c'est-à-dire les services publics, on les démantèle ainsi en niant radicalement la valeur politique de la résistance et en faisant voler en éclats, comme on se retrouve avec une espèce de nuage de points sans lien, comme si tous ces individus étaient accidentellement en proie au même malaise. Donc ça c'est ce que j'appelle le phénomène de la déréalisation. Le phénomène de l'invisibilisation, il est à penser sur le plan quasiment topologique, c'est-à-dire qu'il y a une réalisation topologique de l'invisibilisation dans la ville. La ville n'est plus une cité. Je rappelle que la ville, au sens politique du terme, elle est parcourue de rues qui sont des lieux d'expression. Elle a une place publique, une agora. Et puis, au fronton des bâtiments, les lois sont inscrites. Donc, cette définition politique de la ville, elle a été totalement engouffrée dans une nouvelle ville qui se définit comme un ensemble de galeries marchandes à ciel ouvert et comme étant privée d'agora, privée de place publique. De sorte que lorsque on opère cette dépolitisation intégrale de l'espace urbain, les seuls endroits névralgiques qui ont une importance, ce sont les endroits du capital. Par exemple, la rue qui représente la vitrine France, la vitrine de l'entreprise France, sont les Champs-Élysées, qui n'ont plus valeur politique, mais qui ont valeur marchande. Donc il y a une redéfinition radicalement ultralibérale de l'espace de la ville. Ce qui signifie que, concrètement, le vieux monde politique, pour reprendre les mots même de l'ultralibéralisme, manifeste dans les artères, dans les veines de la ville, manifeste en toute invisibilité. C'est-à-dire que pour peu qu'il n'y ait pas de perturbation des flux de capital, pour peu qu'il n'y ait pas de casse, on peut laisser libre cours aux manifestations, et c'est ce qui s'est fait par exemple pendant la loi travail, où il y a eu une quinzaine d'actes. Tous les samedis, l'espace de la ville était martelé par des présences massives de manifestants. Peu importe, puisque la ville, elle est radicalement dépolitisée. Et donc, pour nous autres citoyens, nous autres hommes qui nous reconnaissons encore comme étant citoyens, la ville, elle peut avoir une présence politique. Par exemple, à Paris, le cortège des manifestations qui va de la place de la République à la place de la Bastille et de là à la place de la Nation, ça a une valeur symbolique très très importante, ça a une valeur politique. Mais la nouvelle ville, ce que j'appelle la ville-monde, qui est la même, qu'il s'agisse de New York, de Londres, de Beijing ou de Paris, cette ville-monde qui est radicalement dépolitisée, peu importe finalement qu'elle soit investie par des manifestations, elles peuvent avoir lieu hein, comme une espèce de rituel infantile, elles peuvent avoir lieu comme un rituel qu'on peut tolérer avec bienveillance, dans la mesure où il est entendu qu'elle n'a aucune valeur.
Merci beaucoup pour cette analyse. En fait, vous nous avez offert durant cette émission un véritable diagnostic de notre société contemporaine, de notre rapport à l'État. On voit comment nous autres individus, nous pouvons être marqués par ce nouveau régime que vous avez décrit, qu'est l'ultralibéralisme. Comment nous-mêmes, on le sent bien, on s'inscrit dans ce descriptif qu'est l'homme nouveau. On sent la logique aussi inégalitaire, j'ai envie de dire, de rapport de force extrêmement, j'ai envie de dire, violent qui peut s'instaurer dans notre société actuelle. Donc il faudrait peut-être maintenant, Kaëlla Gillespie, penser à de nouvelles manières d'agir pour redonner corps aux politiques, pour nous permettre à nous autres individus de redevenir citoyens. On sent que là est toute l'orientation de votre propos, parce que une fois qu'on a fait le bon diagnostic, j'ai envie de dire, il devient maintenant possible peut-être de soigner. En d'autres termes, votre analyse du politique est absolument pas pessimiste. Elle est réaliste, mais en vue de l'action. Est-ce que je me trompe, Kaëlla Gillespie ?
C'est exactement ça. Le constat que nous pouvons faire sur la fabrication de notre apolitisme a pour sens de rendre autre chose imaginable et pensable, autre chose que l'impuissance, autre chose que l'atonie, autre chose que notre retrait dans une posture de passivité. En réalité, si nous comprenons que nous n'avons pas choisi librement d'être des hommes apolitiques, mais que nous avons été conviés à être tels, que nous avons été construits pour être tels, cela signifie que nous pouvons être autre chose que des hommes post-politiques. Nous pouvons reprendre la voie de l'action, et c'est la raison pour laquelle il y a un tome 2 à ce livre qui s'intitule « Retour aux politiques, les chemins de l'action », Alors, cette réflexion-là, elle est nécessairement moins mûre que le constat, puisque là, il y a tout à faire, tout à réinventer, et il faut une réflexion collective. Et donc, le tome 2, c'est simplement une participation à l'immense travail collectif de réflexion qui devra être fait sur comment est-ce qu'on reconstruit le rapport à l'action.
Et c'est là où on voit bien qu'on ne fait pas les choses seules, mais toujours de manière plurielle. En tout cas, je vous remercie infiniment, Kaëlla Gillespie. Je rappelle le titre de votre livre qui est, mon Dieu, d'actualité. Voilà, La manufacture de l'homme apolitique, qui est sorti donc aux éditions Le Bordelot. Quoi qu'il en soit, je vous dis à tous à très bientôt pour une nouvelle émission de Parlons Philo sur Radio Campus. Au revoir.
Parlons Philo, une émission de philosophie diffusée sur Radio Campus Orléans 88.3, animée et présentée par Laurence Lacroix. Children, watch the sun.